L'émission des jardins sur RDIWA. Alors cette émission, on va donner un petit peu de précision. Cette émission est diffusée pendant 2 mois et elle est diffusée les dimanches, le premier dimanche du mois à 15h. Donc la première diffusion de cette 5e édition de Pêle-mêle bêche aura lieu le dimanche 7 octobre, donc à 15h. Après, il est tout à fait possible de podcaster cette émission et les précédentes sur le site d'RDIWA. Donc aujourd'hui au programme, donc déjà nous avons un spécial guest, Manu Lamouchefly.
Bonsoir.
Salut Manu. Bonsoir. Et autour des micros, eh bien Gabriel, Robin et Carole, qui vont vous parler de l'actualité des jardins et puis d'autres choses. Donc bien sûr, le roi Topie et Moulon Brie Mignon, nos incontournables personnages de Pêle-mêle bêche vont nous narrer leurs petites péripéties dans le jardin. Diverses chansons de Manu Lamouchefly. Ensuite, des petites discussions sur l'eau, là, qui nous tombe en seau sur la tête. D'où vient cette eau? Où va-t-elle? Qu'en faisons-nous? et puis voilà, des discussions de jardiniers, où en sont nos jardins, qu'est-ce qu'il y a à ramasser en ce moment, qu'est-ce qu'il y a à transformer, qu'est-ce qu'il y a à préparer pour les saisons prochaines. Petite recette de confiture de tomates vertes, et puis la rubrique des jardins et des hommes par Robin, avec des jardins en Espagne, des jardins à Barcelone. Voilà en gros, vous êtes d'accord?
Ok, c'est parti.
Si.
Oh, 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 c'est moi le roi Topie. Et je règne toujours sur ce beau jardin, même malgré la pluie. Et j'ai mes fleurs jaunes, rutilantes, merveilleuses, lumineuses, qui règnent sur ce jardin si gris.
Oui, nous t'avons admiré, roi Topie, c'est vrai.
Oui, c'est moi le plus beau. Je le sais. Et mes fleurs ne sont pas prêtes de faner, je vais continuer à illuminer le jardin quand tout le monde est fané.
Mais moi j'avais l'intention de te couper.
Me couper? Oh non, valet, oh non, pauvre sujet, vous ne me couperez pas, sachez, monsieur, que sans moi vous ne pourrez pas vous nourrir cette année, cet hiver, car mes tubercules vont grossir, et je pourrai nourrir tous mes sujets.
Ah, pas mal. Et vous avez fait des connaissances nouvelles dans le jardin cet été?
Le jaune harmonieux de ma fleur s'harmonise avec délicatesse, avec une cousine éloignée que je viens de rencontrer, oui, la princesse Aster Bleu des Alpes. Une cousine éloignée qui fleurit d'un joli petit mauve, un joli petit violet qui ravit tout le jardin. Que je vous y prenne à me couper, couper ma princesse.
J'étais parti me promener par les bois, par les prés, pour aller observer une jolie fleur couverte de rosée. Que j'avais aperçu hier soir au crépuscule et que je voulais voir s'épanouir à l'aube dorée. Arrivé sur le site de la veille, je mets tous mes sens en éveil, mais je parviens pas à retrouver cette jolie fleur couverte de rosée. J'avais l'esprit occupé, urtissé, cupilifère, ombilifère, l'a fait assez, que je l'étamine dressée. Soudain, quand j'ai roulé sur une pierre, je me suis retrouvé le cul par terre, derrière un arbre couvert de lierre, je l'ai entendu s'esclaffer. Écartant le rideau de plantes, j'aperçois l'insolente qui avait posé sur la tente cette jolie fleur tant convoitée. « monsieur le botaniste, ne soyez pas si triste, une plante qui n'est pas sur votre liste, et si toi me l'a montré. C'est alors que j'ai découvert la brique aux fruits du conifère, qui était allée se cacher dans une vallée couverte de rosée. Chaque souvent je vais me promener par les bois, par les prés, pour aller observer une jolie fleur couverte de rosée. C'est pour ça que souvent je vais me promener par les bois, par les prés, pour aller me reposer dans une vallée couverte de rosée.
Bravo Manu!
Merci.
Eh ben, dis donc, y a des nouvelles de Moulin-Brémignon?
Vers de terre, toi qui rampes ventre à terre, vers de terre. Que fais-tu quand il pleut si dru? Fais-tu des glissades au pied des salades? Vers de terre. Vers de terre, toi qui rampes ventre à terre. Vers de terre, toi qui as séché durant tout l'été, n'auras-tu pas besoin de t'hydrater? Un bonbon pour soigner ton teint. La la la, la 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 la.
Eh oui, c'est moi Moulin-Brémignon. Est-ce que je suis pas mignon? Et j'ai un beau teint, n'est-ce pas?
Oh bah ouais.
Et alors, ben, je vais vous raconter ce qui s'est passé ces derniers temps.
Qu'est-ce qui s'est passé?
J'étais dans ma galerie, dans ma galerie là, verticale, et j'étais sous un champ.
Un champ de quoi?
Un champ qui venait d'être récolté, c'était cultivé. Il y a eu des trombes d'eau.
Mais qu'est-ce que tu foutais dans un champ qui était cultivé? On t'avait pas cisaillé en 10 000 morceaux?
Ben non, j'étais allée voir quand même un peu ce qui se passait là-bas, parce que moi j'aime bien explorer les alentours.
Qu'est-ce que t'es curieux, Moulin-Brémignon? Moi j'oserais pas, tu sais.
Ouais, eh ben tu vois, je suis un aventurier, mais bon, je l'ai payé cher parce que mes galeries se sont effondrées sous l'eau, les trombes d'eau. Alors j'ai vite couru me réfugier dans les jardins familiaux de l'aube. Et là, c'était merveilleux. Alors, tandis que cet été, je m'étais desséchée comme une vieille saucisse. J'étais tout fripée, tout desséchée. Et là, heureusement, mais bon, j'étais desséchée parce que j'étais un peu sous le champ. Si j'avais été dans les jardins de l'aube, peut-être que j'aurais gardé mon teint frais.
Mais qu'est-ce qu'il y a au jardin de l'aube de si mystérieux, de si magique?
Eh bien, là, le sol était resté bien en place, parce qu'il y avait plein de choses cultivées, plein de légumes encore en place, plein d'herbes. Alors, la terre a bien tenu. Et avec l'aide de mes petits amis, les vers épigés, qui font leur galerie à l'horizontale, près de la surface.
Excuse-moi, j'ai pas pigé, là. C'est
alors,
qui, ceux-là?
C'est des vers. Bon, ils sont plus petits que moi, hein. Moi, je suis plus grand. Voilà, c'est des petits vers. Bon, ils m'ont aidé, ils ont fait une galerie horizontale, et on a fabriqué une piscine.
Une piscine?
On a récupéré un peu d'eau. Ils m'ont aidé à fabriquer la piscine et j'ai pu me baigner dedans et retrouver un teint frais. Bon, après, c'est vrai qu'au bout de la 5e fois, l'eau est devenue un peu boueuse. Alors bon, ça m'a fait un petit bain de boue et maintenant j'ai un teint merveilleux.
Mais dis donc, tu te la joues grand luxe, Moulin-Brémignon?
Eh oui, j'ai de la chance, hein, parce que qui peut se baigner encore maintenant, hein? À part les irréductibles de la Drôme, hein, la piscine est fermée, voilà. Et moi, je suis encore là à me baigner. En plus, j'ai un super maillot de bain. Est-ce que vous savez qui me l'a fabriqué?
Non.
Ben, je vais vous dire. C'est Marianne, elle m'a tissé un maillot de bain avec une toile d'araignée.
Putain, c'est faire de ses trucs, cette fille, je te jure. Elle touche à tout, hein.
C'est merveilleux. J'ai mon petit maillot de bain, là, on dirait du fil de sorcière, du fil de fée. Voilà, c'est un peu comme de la dentelle. Mais bon, je le montre pas à tout le monde parce que quand même, hein, c'est
spécial. T'as vraiment des goûts de luxe, Moulin-Brémignon. Avec ta piscine et ton maillot de bain en soie.
Ah ouais, je suis trop content. Vive l'automne, vive la pluie. Mais bon, après, hein, qu'est-ce que vous en pensez, vous, là, de toutes ces questions-là, des champs qui sont laissés à nu?
Bah moi, je trouve qu'il pleut beaucoup, 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 beaucoup. Et que ça ravine, ça ravine.
Parce que la terre est entraînée par l'eau. Et pourquoi est-ce qu'elle est entraînée par l'eau, en fait?
Parce qu'il n'y a plus de haies, parce qu'il n'y a plus d'arbres pour retenir la terre.
Pas de couverture sur le sol.
Une vraie couverture?
Ouais, une vraie couverture, oui.
Rolaine, tissée par Maria.
Voilà, c'est ça.
Bah, il n'y a plus le système des racines qui permettent que la terre soit meuble et que le dessus passe en dessous. En fait, du coup, ça glisse.
Moi, j'ai remarqué ça aussi en me baladant dans le coin, tout ça, les grands champs comme ça qui sont cultivés et qui sont où la terre est retournée, donc durcie aussi. Il y a carrément une semelle de labour qui se crée et il y a même des mares hein, qui se créent dans les champs. Donc même pour les agriculteurs, c'est pas super, quoi, parce qu'ils se retrouvent avec un champ, avec la moitié qui est un étang. Tout ça parce que l'eau peut plus pénétrer plus profond dans la terre. Et comme tu disais, Manu, ouais, les haies ou des zones un peu marécageuses avant faisaient des tampons, permettaient d'absorber les excès d'eau. Et puis maintenant, comme on supprime toutes ces zones qui absorbent l'eau, ça crée des grosses retenues d'eau par endroit et ça crée des déséquilibres.
Déséquilibres.
Des glissements de terrain.
T'aurais pas une chanson, Manu, sur le déséquilibre?
Sur le déséquilibre. La terre est belle, oh ami Wayo. Elle m'a donné tout ce qu'il me faut. L'air, l'eau, les plantes et les animaux. Devient poison, l'air aussi poison, presque plus de poissons, tant que tu mourir les oiseaux. La fleur est belle, oh ami Wayo, fine et fragile, va vers le haut. Elle sort de terre quand le temps est chaud et plonge ses racines vers l'eau. Forêt brûlée, dévastée, mis sur la pharmacopée, tout ça pour nous faire bouffer, génétiquement modifié. La femme est belle, oh ami Wayo, m'attire à elle et me donne chaud, portant son ventre et puis sur son dos, le sourire d'une ribambelle de marmots. Elle est maltraitée, violée, vendue, achetée ou donnée. Mère, fille, femme exploitée, n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. L'enfant est beau, ami Wayo, il sent la vie à fleur de peau. J'écoute ses rires aussi, ses sanglots. Lui aussi aime jouer à l'eau. Innocent manipulé par un monde d'adultes attardé, qui ferait bien de se rappeler qu'un jour eux aussi ils sont nés. Voilà.
Bravo. Merci. Elle s'appelle comment cette chanson, Manu?
Elle s'appelle La Terre est belle. En fait, elle n'a pas de titre, mais alors c'était Ou Ami Wayo ou La Terre est belle.
D'accord, voilà. Au choix.
Au choix.
Mm. Et où est-ce qu'on peut les écouter, tes chansons?
Ben, nulle part.
Chez toi?
Sur Radio Diwa.
Sur Radio Diwa?
De temps en temps.
Ouais.
Il y en a déjà une qui est passée dans une émission de Colin.
D'accord.
Voilà. Qui s'appelait Prenez garde aux cons.
Mm-hmm.
Voilà. On reste dans un sujet d'actualité.
C'est ça. Ça ne manque pas. Bah alors moi j'ai une question, ça va peut-être vous choquer, mais la rétention d'eau, moi ça me parle parce que voilà, j'ai de la cellulite, puis j'ai de la peau d'orange et je me demande voilà, est-ce que l'irrigation ça peut marcher, est-ce que la culture en terrasse ça peut marcher, qu'est-ce que je peux faire hein?
Mais c'est beau les fruits, t'es pas contente d'être une orange?
Alors en ce moment, il y a un truc bien, c'est le paillage terre-carton, enfin paille, machin. Et
Je te suggère de te mettre sur un carton, sous un carton, avec un peu de paille, et autant toute ton eau va...
Ah ouais, tu penses que ça va m'irriguer et que la rétention d'eau, je subirai plus, hein.
Ben, peut-être.
Ah ouais.
Moi, j'ai entendu parler d'un autre truc, c'est les chauves-souris qui m'ont dit ça. Parce qu'elles sont, elles aiment bien se cacher sur, derrière le lierre, là, contre les murs. Et alors, le lierre, tu en mets dans ton... Le lierre terrestre, tu en mets dans ton bain, dans un bain chaud, tu te baignes dans ce bain et ça te draine la cellulite.
Non. Ah, mais je vais devenir une reine des chauves-souris. Hein.
Attends, tu parles de quel lierre? Le lierre terrestre ou le lierre grimpant?
Ah, c'est vrai que j'ai tendance à confondre les deux. Je crois que c'est le lierre terrestre.
D'accord, le lierre terrestre. Les chauves-souris se cachent dans le lierre terrestre?
Ben non, justement, c'est pour ça que tu me prends en défaut, voyons. Eh oui, on n'est pas une contradiction près, mais bon, c'est pas grave. Donc ne pas confondre les lierres, effectivement.
Eh bien, le lierre terrestre et le lierre grimpant, c'est pas la même chose. Le lierre terrestre, c'est une petite lamiacée. Et le lierre grimpant, bon, c'est celui qu'on a l'habitude de voir qui grimpe sur les murs des maisons et qui fait du bois, quoi.
Et il ressemble... Alors, le lierre terrestre, Robin, faut que tu nous expliques, parce que si on va en ramasser et qu'on se trompe de lierre, on va être... Il pousse pas sur les murs. Et est-ce qu'il ressemble au lierre grimpant?
Non, il a rien à voir du tout. C'est une plante herbacée. Je sais pas à quoi est-ce qu'elle ressemble. Elle pousse souvent dans les jardins. Elle aime bien les endroits un peu les sols un peu riches. Elle fait des petites fleurs roses, mais il n'y a aucune chance de confondre les deux. Donc le lierre terrestre, il est utilisé pour la toux, mm-hmm. par exemple. Le lierre grimpant peut s'utiliser pour la toux aussi, mais lui, là, il est potentiellement toxique, donc on va plutôt éviter de l'utiliser comme ça, de manière familiale.
Il vaut mieux que je me baigne dedans, quoi.
Ouais, évite. Vous êtes toxique.
Je crois savoir que le lierre est riche en saponine aussi, non? Et qu'on peut faire de la lessive avec. Ouais, alors, c'est le lierre terrestre ou le grimpant?
C'est le grimpant. C'est pour ça qu'il est un peu toxique et qu'on va éviter de l'utiliser en interne, comme ça, sans précaution. Mais par contre, en bain, il n'y a aucun souci, bien sûr.
Ça va me laver en plus. Ouais. C'est génial. Vraiment. Et vous n'avez pas d'autres solutions? Moi, j'avais entendu parler de petites gélules de germandré.
Ben c'est vrai que quand on veut perdre du poids ou s'attaquer à des problèmes comme ça, on peut prendre des toniques amères, des plantes qui sont toniques amères, c'est-à-dire qu'elles vont souvent elles ont un goût amer, hein, et elles vont stimuler la digestion, tout le système digestif et les sécrétions du foie et les sécrétions digestives en général. Et donc ça va permettre une meilleure digestion et donc aussi d'éliminer ce dont on n'a pas besoin. Et il y a une plante qui est une tonique amère, la germandrée, qui est utilisée en médecine populaire depuis des générations, sans aucun souci. Elle est utilisée plutôt en cure de printemps, en général, en tisane, voilà, par certains paysans, notamment dans le Luberon, par exemple. Le problème, c'est qu'il y a eu justement, oui, donc, comme tu dis, des gélules qui ont été faites à partir de germandrée par un laboratoire, donc qui a voulu un peu s'approprier le savoir populaire ancestral, mais sans trop regarder de près. Et donc ils ont fait une préparation, donc ils n'ont pas fait une plante tisane, puisque là c'était des gélules. Donc je ne sais pas exactement si c'était des gélules d'un extrait de plante ou des gélules de plante entière, mais toujours est-il que ces gélules se sont avérées extrêmement hépatotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour le foie. Et donc il y a eu des cas d'hépatite fulminante, plusieurs morts suite à l'ingestion de ces gélules amaigrissante. Donc, plutôt à éviter celle-là, du coup. Bon, elles ont été retirées du marché, bien sûr. Mais voilà, on va éviter les gélules de germandrée petit chêne, ouais.
Bon, d'accord. Eh bien, dis donc. Alors, une dernière, peut-être, après cette mise en garde, une dernière petite plante qui pourrait peut-être te servir, c'est la reine des prés. Donc, voilà, elle porte bien son nom parce que Elle te permettra de te montrer dans les prés avec des petites jupes courtes et montrer tes belles jambes une fois l'été venu, voilà.
Oh, j'en rêve.
Bon, et ben ça fait quand même peur, hein, ce que raconte Robin. Hein.
Et ben c'est pour ça qu'il faut faire sur ce point-là,
ouais,
la révolution.
Ah bah ouais, carrément.
Allez,
Si tu n'as qu'un neurone, ou si tu as trois bras, si t'as une couille qui te pousse au bout d'un mois, si tu n'as plus de dents et que tes oreilles sont tombées, que tu passes ta vie pliée en deux sur les WC, si ta peau de marque quand tu gardes que tes mamans ressemblent à des blattes, ne viens pas t'étonner, tu peux aussi remercier les lobbies pharmaceutiques, alimentaires, technologiques, politico-économiques, spéculations et fanatiques. Viens danser avec les atomes et autres particules, collection de beaux hématomes, de magnifiques pustules, fais confiance aux politiques et surtout sois crédule. 52 ans, achète une pendule, tu seras moins ridicule. Rien de bon. Je pense bien qu'on le prend pour des cons. C'est pour ça que je crie à mes compagnons. Et vive la révolution. Affaire. Nos experts vont tout régler d'ici quelques milliers d'années. Y'a pas de pour l'hôpital, y'a des gens qui crèvent la ZAD. Nos stars et nos dirigeants qui en sont juste au sadanal. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun danger. Buvez un cacalouca et un bon feuilleton télé. Quelle meilleure perspective pour l'humanité de crever pour vivre abruti et intoxiqué.
Quoi de neuf au jardin ?
Alors, au jardin, eh bien, en ce moment, évidemment, on va pouvoir continuer de récolter les légumes qui sont arrivés à maturité.
De la boue ?
De la boue, voilà. Il faut commencer à rentrer, en fait, aussi certains légumes du fait de la pluie, de l'humidité, donc des risques de pourrissement, de moisissure. Et puis bon, avant les premiers gels pour certains. Donc par exemple les carottes, on peut les sortir si on l'a pas encore fait. Il vaut mieux les laisser essuyer 24 heures avant de les stocker. Bon, évidemment, il vaut mieux éviter les jours de pluie comme maintenant. Donc il faut trouver des jours un peu plus secs. Les courges, les potirons, les courgettes, tout ça aussi, elles vont apprécier qu'on les coupe. Alors on peut couper le pédoncule le plus près de la tige possible. On les laisse un tout petit peu sur place dans le jardin, pareil par temps sec, et on les rentre ensuite au chaud, au sec. Ça peut être dans un grenier.
Pourquoi il faut les laisser un petit peu au jardin avant de les rentrer ?
Pour qu'elles sèchent un petit peu sur place. Voilà, c'est pas obligé, pour certains légumes, ça se fait pas mal, mais c'est pas obligé non plus, tant qu'ils ont les bonnes conditions en fait pour se conserver, tout va bien. Et alors, sinon, poivrons, tomates, aubergines et les courgettes dont on a parlé, eh bien, on va pouvoir faire des ratatouilles aussi, se dépêcher de faire des bonnes ratatouilles, on peut faire des conserves pour l'hiver. Et en particulier les tomates, là, vu qu'il il a pas mal plu, les températures pendant la journée descendent en dessous de 15 degrés, il vaut mieux éventuellement commencer à rentrer. On peut arracher en fait les pieds, là où il reste des tomates vertes, et on peut les rentrer, les attacher la tête en bas, pareil dans un endroit sec. Et puis, il faut dire qu'il y a aussi toutes les limaces qui, là, se ruent sur tous les fruits qui restent. Hein. Elles sont bien contentes quand il fait humide. Donc, c'est aussi un des risques de perdre ces dernières tomates à cause de ça. Donc, on peut les laisser comme ça mûrir. On peut aussi, elles vont mûrir, on peut aussi même les mettre dans une cagette en faisant attention qu'elles aient pas d'humidité. Donc on peut mettre du papier journal en dessous, par exemple, et faire attention qu'elles ne soient pas écrabouillées les unes contre les autres. On peut les laisser sécher, on peut les laisser mûrir. Si elles ont de la lumière, elles vont mûrir, hein, elles vont passer du vert au rouge. Pareil pour les poivrons. Parce que d'ailleurs, les poivrons verts, c'est des poivrons qui n'ont pas encore mûri. On peut aussi ramasser donc les poivrons verts et ils mûriront tranquillement, même à l'intérieur de la maison. Voilà, les tomates, on peut aussi faire de la confiture de tomates vertes, dont nous parlera Carole tout à l'heure, une de ses spécialités. C'est vrai que c'est assez bon. Sinon, quoi d'autre à rentrer? Si on a des haricots secs, on peut aussi les ramener avec le pied entier. On peut les accrocher en petits bouquets à l'intérieur de la maison, les laisser sécher encore en intérieur. Et puis voilà, on les mangera en sec le reste de l'année. Si on veut en garder pour faire des semences, on peut les passer 24 à 48 heures au congélateur, pardon, parce que ça va tuer un petit ver du haricot dont je n'ai plus le nom dans la mémoire et qui peut faire des dégâts, quoi, qui survit jusqu'à l'année d'après. Donc si on fait ça, on l'éradique et on pourra ensuite les ressemer l'année prochaine.
Super.
Alors il y en a d'autres légumes. Bon, j'en ai sans doute oublié de ceux qui a récolté. Hein.
Moi je voulais te demander les haricots verts, là, parce que bon, du coup là ils grandissent plus, ils font plus rien là. Mais est-ce qu'on peut arriver à faire des semences? Je me disais pour... à partir de quel moment, en fait, il faut les laisser, les enlever, tout ça?
D'accord. Bah, en fait, de manière générale, pour faire des semences, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de sélectionner un tout petit peu. Soit les pieds les plus précoces, soit ceux qui ont fait les cosses les plus grosses, les haricots les plus gros. Bon, essayer de choisir des haricots qui sont ceux qui ont montré qu'ils étaient en fait les meilleurs, ceux que tu as envie de conserver pour l'année prochaine. Après, là, s'ils grossissent plus, ben, tu peux en garder. Après, il faut voir s'ils te conviennent en tant que grosseur, quoi, si t'as envie, s'ils sont aussi bien que ceux que tu avais semés au départ, par exemple. Si tu vois que ça n'a pas très bien donné, qu'ils ne sont pas très beaux, il vaut peut-être mieux en ressemer à partir de bonnes graines, quoi. Mais après, c'est toujours sympa de faire ses graines.
Ouais.
Mais c'est intéressant de réfléchir et de choisir, de sélectionner vraiment ce qu'on va ressemer. Parce que c'est grâce à cette sélection qu'on a quand même obtenu, à travers les siècles, des variétés de plus en plus intéressantes à la consommation. Et rien qu'en faisant ça, on peut soi-même, dans son jardin, réussir à avoir des légumes de plus en plus beaux d'année en année. Donc ça peut être pas mal. Sinon, il y a des légumes aussi qui restent en pleine terre. Pendant l'hiver, il y a les panais, en fait, qui survivent bien en terre. Donc, eux, on peut même les manger jusqu'au printemps. Évidemment, les topinambours aussi, hein, n'est-ce pas? Le roi topi qui est tout content. Ils sont bien tout l'hiver en terre. Et bon, c'est pas très pratique de les ramasser quand le sol est gelé, donc vaut mieux éviter. Mais sinon, on peut essayer d'échelonner aussi, d'en manger de manière régulière. Et après, il ne faut pas laisser traîner trop longtemps au printemps, parce qu'il faut savoir que quand ça repart. Hein. Notamment le topinambour, vaut mieux en laisser après juste quelques-uns et avoir récolté tout le reste pour pas en avoir trop.
Une invasion.
Voilà, une invasion. En plus, si on en laisse beaucoup, on aura une haie de tout petits topinambours, alors que si on en laisse que quelques-uns, qu'on les soigne bien, qu'on leur met un peu de compost ou de fumier et tout ça, ils seront enchantés, ils feront des gros pieds, ils produiront énormément pour chaque tubercule de départ. Donc autant essayer de les récolter, voilà. Et si vous en avez beaucoup trop, trouvez des voisins, expliquez-leur notre super recette des topinambours qui ne donnent pas de flatulence, qu'on a fait dans une émission précédente. Voilà, donc notamment les blanchissants ou lactofermentation. Enfin bref, il y a plein de joies du topinambour. Ce qu'on peut, on peut encore planter des choses. Alors on a pu semer récemment de la mâche, de l'épinard, des scaroles,
la roquette, des navets.
Ouais, des laitues d'hiver, des chicorées. Donc ça, c'est des choses, pour certaines, elles pourront passer l'hiver, mais ce sera bien de leur faire un petit tunnel, un petit tunnel. Alors, il y a des choses qu'on peut se les fabriquer même simplement avec ce qu'on a autour de chez soi. On peut faire un cadre au sol, donc qui fait la longueur qu'on veut et la largeur de la planche, en fait, qui encadrera ces plantations, tout simplement avec quatre montants en bois qu'on pourra clouer entre eux ou visser. Et on peut faire des trous régulièrement sur les côtés qui font qu'on pourra mettre une baguette, par exemple, de saule ou des baguettes souples, même des bambous s'ils sont assez, assez souples, ou du noisetier, voilà. Les enfoncer dans le trou d'un côté, hop, faire un arceau et l'enfoncer de l'autre côté. De l'autre côté, voilà. Et tout ça, ça va faire un tunnel, donc avec des arceaux réguliers. Après, on peut mettre donc des voiles de protection hivernale et on pourra garder certaines choses pendant l'hiver. Et notamment, par exemple, la coriandre ou le persil, on peut déjà ressemer maintenant, ne pas attendre le printemps, les ressemer. Et on peut, ils pousseront déjà maintenant à l'automne, et on peut, en les protégeant, bénéficier de jeunes pousses bien plus tôt au printemps que si on n'avait pas protégé. On a pu en bénéficier d'ailleurs, voir ce que ça donnait dans le jardin, dans les jardins de l'Aube, chez Yamina par exemple, qui avait de la coriandre avant tout le monde au printemps. On peut aussi, en ce moment, planter en pleine terre ou sous abri du chou de printemps, de la laitue d'hiver, l'oignon blanc, et on pourra aussi mettre donc de l'ail blanc, rose ou violet. Ça se fait pas mal par ici et ils tiennent bien l'hiver, donc ça peut être pas mal pour en avoir tôt après au printemps. Voilà. Vous avez essayé ?
Oui, on a essayé l'année dernière avec Gabriel au jardin de l'Aube. Et Olivier aussi. Et bien, ils ont résisté, en effet. Et au printemps, ils étaient hors de terre. Ils étaient très beaux.
Eh bien, c'est bien, c'est bien ça.
Donc, on peut faire pareil avec tous les aliacés, hein, du coup, avec l'oignon, avec les échalotes aussi, j'imagine. Je sais pas.
Tant qu'ils restent, voilà, ils restent un peu sous terre. Et en fait, ils survivent assez bien au froid. Hein. On peut aussi, alors pour ceux qui sont courageux et qui aiment bien faire des choses un peu spéciales, on peut faire blanchir les cardons. Et les chicorées. Alors les chicorées, pour qu'elles soient moins amères, en fait, on peut les faire blanchir. C'est-à-dire qu'on attache ensemble les feuilles avec du raffia et on recouvre de feuilles mortes ou de paille. Et elles vont blanchir puisqu'elles ne peuvent plus faire la photosynthèse. Et elles vont perdre de leur amertume. D'ailleurs, c'est un peu la même technique qui est utilisée pour les endives. Hein. Voilà, les chicons qu'on forçage des endives. Bon, ça, c'est quelque chose d'assez particulier aussi. Mais je ne vous expliquerai pas tout ça maintenant parce que c'est toute une histoire. donc voilà, si vous aimez les chicorées blanchies, on peut essayer. Elles seront mangeables au bout de 2-3 semaines à peu près après les avoir rassemblées pour les faire blanchir. Alors, sur les planches libérées par les récoltes, on va évidemment, pour éviter tout le lessivage, c'est-à-dire le lessivage du sol, c'est-à-dire quand il pleut beaucoup, comme là en automne, on va éviter que les pluies entraînent tous les éléments nutritifs du sol dans les couches souterraines et que le sol s'appauvrisse. Donc pour ça, on va essayer de jamais laisser le sol à nu. Et donc, il faut aussi d'ailleurs apporter de la nourriture sur les planches. Il y a évidemment des légumes qui ont moins besoin de compost ou de fumier que d'autres. Mais par exemple, si on a des légumes très exigeants comme toutes les solanacées, enfin surtout les tomates, aubergines, concombres, courges. Pardon, là on parle sur une autre famille, mais les autres exigences, c'est les cucurbitacées, donc les courges, les courgettes, concombres, notamment les choux aussi. On va bien nourrir le sol. On peut par exemple apporter, après avoir un petit peu aéré le sol avec une grelinette par exemple, si le sol s'est tassé le temps des cultures, ce qui arrive fréquemment avec un sol argileux comme ici. Donc on peut aérer un petit peu avec une grelinette. Ensuite, on peut apporter une grosse couche de compost. Je sais qu'à Terre Vivante en Isère, par exemple, ils m'ont confié qu'ils mettaient une couche de 15 à 20 cm de compost sur la terre à l'automne. Il le laisse donc tout l'hiver nourrir le sol, se décomposer. Ça protège aussi en fait les petits animaux du sol. Finalement, c'est une couche bien protectrice. Et au printemps, il sème des engrais verts tôt au printemps, des engrais verts avant de mettre autre chose. Avant d'avoir une autre culture, que ce soit après, on peut les laisser plus ou moins longtemps selon si on veut les mettre des choses très tôt à la fin de l'hiver ou si on attend après le 15 mai par exemple, après les Saintes Glaces, pour mettre des cultures plus fragiles. Donc on a déjà parlé des engrais verts. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on peut mettre comme engrais vert par exemple, si on veut semer un engrais vert au printemps ou même dès l'automne?
De la moutarde, de la facélie.
Voilà, ouais, la moutarde, elle va geler pendant l'hiver, mais on peut, par exemple, si on la met au printemps, ça peut être pas mal aussi.
Là, en ce moment, qu'est-ce qui est possible de mettre?
Si on veut mettre un engrais vert tout l'hiver, on peut mettre, ce qui est intéressant, c'est de mettre une association entre une graminée, qui a un système racinaire intéressant pour décompacter le sol, et une légumineuse qui va apporter de l'azote au sol, donc... dans les graminées, on peut faire des associations comme seigle vesse, avoine vesse. On peut mettre de la luzerne comme légumineuse. Il y a même des pois fourragés comme légumineuse. Au jardin, on peut aussi marcoter ses fraisiers, puisque au bout de 3 ans, ça peut être bien de renouveler un petit peu les plants qui vieillissent un peu pour garder suffisamment de fraisiers bien beaux, bien productifs. On peut tout simplement aider les stolons qui sont partis, donc les tiges qui partent du fraisier principal et qui font un autre petit plant qui part au bout de cette tige, voire un autre encore après. On peut utiliser en fait cette propagation spontanée pour implanter les nouveaux petits fraisiers aux endroits où on voudrait. Si ils sont vraiment pas là où on voudrait, on peut toujours remplir un petit pot des pots de terre du jardin et faire directement s'implanter le nouveau petit fraisier dans ce pot, et quand il sera bien enraciné, le transplanter plus loin et couper le stolon. Voilà, donc pour rajeunir un petit peu les fraisiers. Évidemment, pour l'hiver, on les paillera, on pourra leur mettre du fumier, du compost. Bien les pailler, voilà, pour l'hiver, pour qu'ils passent un bon hiver. Les fleurs et les plantes aromatiques et médicinales. On va encore pouvoir profiter de floraison de certaines fleurs au jardin. Par exemple, les soucis.
Il y a la sarriette aussi, si on l'a taillée déjà une fois, elle refleurit.
C'est ça.
La menthe, voilà. Aussi, exactement. Marjolaine.
On peut continuer, soit on a déjà taillé, soit on peut encore... Pensez à couper les tiges desséchées, couper les fleurs fanées, et ça va aider toutes ces aromatiques et toutes ces fleurs aussi à refaire d'autres fleurs. Puisqu'évidemment, leur but étant de faire des graines pour se reproduire. Si on coupe les fleurs et qu'elles n'ont pas fait suffisamment de graines, ou voire pas du tout, elles vont vite s'empresser de refaire des fleurs pour pouvoir faire des graines. Alors évidemment, il faut quand même garder... Pensez quand même à garder des graines, soit pour que ça se ressème tout seul, comme les soucis, ou sur des endroits où on veut garder des massifs ou des fleurs en place, soit pour soit récolter soi-même les graines pour les ressemer l'année prochaine, pour les annuels. Et aussi, il faut penser que certains oiseaux, notamment, sont bien contents de trouver des graines l'hiver. Donc même les cosmos, on peut en laisser un petit peu... dans le jardin pour que les oiseaux soient contents d'aller picorer les graines. Voilà, donc un peu de tout en fait. C'est ça qui est sympa au jardin. On s'ennuie jamais, quoi. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc sinon, les plantes aromatiques, évidemment, on peut continuer à les récolter, les tailler un petit peu pour récolter de quoi faire des tisanes l'hiver ou des condiments aussi. Hein, on peut faire des tisanes... On peut faire des tisanes, par exemple, avec la menthe, la mélisse, la sauge, le thym, le romarin, la sarriette.
Il y a toutes les graines d'ombellifères, de fenouil, d'aneth aussi à récolter en ce moment.
Voilà, c'est ça, le fenouil et les autres. D'ailleurs, c'est pas mal comme
condiment. Les carottes sauvages aussi.
Exactement, ouais. Donc ça, c'est
pour mettre dans les gâteaux.
qu'on peut utiliser en tant que tel, en tant que condiment. On peut aussi en laisser sur place parce que les oiseaux adorent ça aussi. Et puis elles peuvent aussi se ressemer. Alors, sinon, n'oublions pas, donc, pour aider, encore une fois, pour favoriser la vie sauvage dans le jardin, à part laisser des graines et puis aussi laisser des tiges, c'est vrai qu'on peut aussi laisser des coins un petit peu sauvages pour qu'il y ait des fleurs ou voilà, qui fassent des tiges, notamment pour les araignées, par exemple, les paires diadèmes dont on parlait tout à l'heure, hein, qui a fait une super toile d'araignée pour le
haut
de bain de Moulon-Brémignon. Cette épaire diadème, donc, c'est une araignée magnifique qui a des espèces de stries horizontales noires et elle est blanche et jaune. Elle est très belle, on la trouve souvent dans les jardins et elle est bien contente en fait quand on laisse des petits coins sans en passer tout le temps et où elle peut faire sa toile d'araignée. Donc elle va en profiter là l'automne. Si on l'a laissée tranquille, elle va pouvoir faire sa toile d'araignée, pondre ses œufs. Et il faut savoir que c'est quand même une araignée qui a des proies qui sont des ravageurs du jardin, donc les pucerons ailés, des noctuelles, certains papillons, donc comme les pierrides hein, qui s'attaquent aux choux. Donc ça va être vraiment un allié. Après, elle se nourrit aussi de guêpes ou d'abeilles, mais ça va quand même être une alliée pour combattre les ravageurs du jardin. Donc ce sera sympa de lui laisser quelques tiges en place et des petits coins sauvages dans le jardin. On peut aussi, donc, pour favoriser les animaux pendant l'hiver, leur faire des petits abris. On peut faire un tas d'herbes sèches et par-dessus mettre des fagots de tiges creuses, des tiges à moelle. Dont vont se nourrir certains insectes qui vont faire leur petit nid dedans, qui vont être contents pour l'hiver. Alors les tiges à moelle, par exemple, il y a le sureau, le framboisier, le fenouil. Donc c'est des tiges, notamment quand on taille les plantes de son jardin, au lieu de jeter ou de mettre ces tiges sur un tas quelconque, on peut en faire un tas spécifique pour abriter des insectes comme les chrysopes, d'autres insectes. On peut aussi leur mettre par-dessus quelques tuiles, puisque le rouge attire les chrysopes et ça leur garde la chaleur aussi. Donc ça protégera un petit peu ces tas de la pluie, de la neige. Voilà, on aura plein d'insectes après, au printemps, ce qui est aussi assez amusant à observer. On peut aussi, en pensant particulièrement aux oiseaux, qui sont aussi des gros dévoreurs d'insectes, mettre des haies dans son jardin. Donc, penser à implanter certaines espèces en particulier d'arbustes qui vont bien leur plaire, par leur baie qui vont les nourrir, comme par exemple l'aubépine. Le berbéris, le chèvrefeuille, le cognassier du Japon, qui a une superbe floraison mauve-rose au printemps. Là, c'est magnifique.
Rose-orangé, ouais.
Voilà.
Et par exemple, le cornouiller. La baie du cornouiller, elle est toxique pour l'humain, mais pour l'oiseau, les oiseaux les consomment, comme le chèvrefeuille aussi. Le chèvrefeuille,
c'est
toxique.
C'est ça. Le houx aussi, par exemple, les oiseaux vont aimer, alors que bon, nous, on va éviter.
Mais par contre, dans la haie, on pourra planter du cornouiller mâle, dont le fruit là, est comestible.
Ouais.
Ouais, j'ai vu que la pépinière, qui est à la sortie de Die, là, le pépiniériste à la sortie de Die, donc il fait des plants de cornouiller mâle pour mettre dans la haie. Ouais.
D'accord.
Voilà, on peut aussi mettre des églantiers, donc qui donnent le fruit du cynorhodon, qui est très bon aussi pour les humains, hein, qui est plein de vitamine C. La viorne, voilà. Les rosiers botaniques, voilà. Cynorhodon, c'est un rosier sauvage, mais les rosiers botaniques aussi, ça fait des fruits appréciables. Les sureaux, dont on peut nous-mêmes d'ailleurs faire plein de choses.
Donc, des sirops, des confitures.
Voilà, avec les fleurs aussi d'ailleurs.
Avec les fleurs aussi.
Donc c'est à bénéfice réciproque. Et ou les troènes par exemple. Enfin bon, plein de bonnes choses à mettre dans les haies pour favoriser la vie au jardin. Et les animaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Bah, je peux vous proposer une petite recette de tomates, de confiture de tomates.
Tomates vertes?
Tomates vertes, à moins que vous ayez d'autres idées.
Non, je crois qu'on va en avoir besoin là, de la recette de confiture de tomates vertes.
Ouais.
Il en reste quelques-unes. Ouais.
Puis vu le temps que j'y fais, je doute qu'elles réussissent à mûrir. Donc pour ceux qui auront fait le choix de ne pas les emmener sur leurs pieds, de finir de les faire mûrir près de leur fenêtre. Donc, une petite recette. Donc, réservez vos plus beaux fruits, lavez-les, essuyez-les et ôtez la partie qui pourrait être blanche, donc une partie qui n'aura pas mûri, mais qui sera un peu atteinte, un peu abîmée. Vous enlevez cette partie, vous enlevez aussi les plus gros pépins, puis vous coupez tout ça en petits dés. Vous coupez aussi une orange et un citron, non traité, en lamelles, que vous mélangez aux tomates, et puis vous laissez macérer toute la nuit. Donc le lendemain, vous videz le jus de ces tomates, parce que du coup, sinon si on laissait ce jus, ça serait trop liquide. Et vous ajoutez à cette macération de tomates et d'agrumes la moitié du poids total en sucre. Voilà, vous mélangez, et vous portez à ébullition sur un feu vif pendant 15 minutes en mélangeant bien pour pas que ça accroche. Et puis après, vous diminuez le feu et vous continuez à faire cuire encore pendant une bonne demi-heure, quoi. Après, vous faites le test. Alors, je sais pas, chacun a son petit test pour la confiture. Il y a le test au dos de la cuillère, il y a le test sur l'assiette. Quand ça coagule, ça ne coule plus. Donc voilà, c'est que c'est bon. Il y a aussi le test dans un verre d'eau. Donc,
ça, je connaissais pas.
Donc tu lâches ta confiture dans un verre d'eau et si elle fait une boule consistante jusqu'au bout, c'est que c'est bon. Bon, chacun ses petits trucs. Et puis voilà, quand c'est cuit, bah vous mettez en pot et du coup les agrumes vivifient la tomate verte et voilà, c'est très agréable.
Ah, ça doit être délicieux. En plus, c'est vrai que contrairement à ce qu'on croit, le citron, c'est un basifiant, c'est pas quelque chose d'acidifiant, donc c'est pas mal parce que la tomate étant assez acide, finalement, ça doit bien se compléter. Et puis c'est vrai qu'au niveau des goûts, ça doit bien rehausser le goût de la tomate. Mais avec l'orange, ça c'est original aussi. Tiens.
Ouais. Il y a aussi des recettes de chutney de tomate verte qui peuvent remplacer le ketchup, donc en mélangeant avec du vinaigre, pas mal d'épices, du coup en faisant un mélange sucré-salé, il y a de quoi faire des bons mélanges.
Ah, ce sera un ketchup vert alors.
Voilà, un ketchup vert, ouais, tout à fait. Puis dans cette recette de tomates aussi, pour l'adoucir, on peut aussi mettre du coing, de la pomme, voilà, et puis des épices, de la cannelle, des coups de girofle.
De la vanille, c'est pas mal.
De la vanille aussi, voilà. Ouais. Donc il y a plein de tests à faire en fait, selon les goûts, les envies, les fruits qu'on a sous la main, qu'on a récoltés.
Eh bien, d'ailleurs, justement, ça me fait penser que les cueillettes sauvages ou dans les jardins, il y a quand même de quoi faire aussi en cette saison.
Il y a pas mal de choses.
Il y a les champignons aussi qui vont bien sortir grâce à la pluie. Donc, il y a les mousserons notamment. Après, moi, je ne suis pas une grande connaisseuse en champignons. Je sais que les mousserons, là, ça y est, on en a déjà trouvé. Donc, ça va être sympa pour l'automne. Les châtaignes, on va pouvoir les ramasser.
En Ardèche.
Ouais.
Et s'il y en a pas.
Les myrtilles aussi, c'est bien l'Ardèche. On peut aussi trouver les noisettes, les noix, les coings bientôt,
les
pommes d'hiver, les faines exactement.
C'est bon les faines.
Et donc ça, on peut les faire griller notamment.
Oui, mais même cru, sous l'arbre comme ça, grignoter comme les petits écureuils, c'est très bien. On fait une pause dans les cueillettes des champignons.
Ouais, donc c'est vrai que c'est vraiment un fruit qu'on a, enfin une, je sais pas, c'est un fruit.
Bah oui, c'est le fruit. Ouais.
Qu'on a pas mal oublié, ce fruit du hêtre qui était avant utilisé même pour faire une sorte de, enfin une boisson qui remplaçait le café ou le thé, voilà, qui faisait office de boisson.
On le torréfiait.
Exactement, oui, on le faisait griller comme ça, on le torréfiait.
Ouais. D'accord.
Ouais. Avant, on savait bien mieux utiliser quand même toutes les ressources qu'on avait autour de soi. Hein.
Oui, c'est vrai que c'est un petit fruit, donc du coup, c'est plus difficile à l'écorcer, à la, à la teindre.
C'est comme les glands, en fait. On peut aussi faire des sortes de breuvages, des boissons, de la farine. En fait, on est plus trop chasseurs-cueilleurs maintenant. Hein. On est juste
les consommateurs.
Mais bon, pour découvrir un petit peu tout ça, c'est assez amusant quand même.
Est-ce qu'on a fait le tour de nos jardins d'automne?
Alors, ouais, qu'est-ce qui se passe un peu dans les jardins? Est-ce qu'on a envie de partager des choses sur nos jardins? Parole de jardinier.
Moi, mon jardin, il n'y a plus grand-chose. Les tomates à enlever. Les courgettes, de toute façon, ça ne va rien donner. Et là, j'ai semé un peu des épinards et des radis.
Qui ont poussé?
Les épinards, ils sont sortis. Les radis, je viens de les pousser. C'est un peu tard pour les mettre, mais on va voir ce que ça donne.
D'accord.
Ouais. Ouais. Et moi, comme tout le reste de l'année, tout ce qui sort se fait manger par les limaces. Donc c'est une catastrophe.
Ben oui, c'est une catastrophe. Non, mais c'est sûr que c'est à l'ONU, hein, malheureusement.
C'est un peu ça.
Moi, j'ai du mal à les éliminer. Je leur laisse la vie sauve, mais c'est vrai qu'elles font quand même des ravages. D'accord. Bon. Ben voilà, oui, ben moi aussi, hein, j'ai... Il reste quelques tomates, des choux qui ont été pas mal dévorés par les punaises, donc bon. Mais...
Les punaises jaunes, là, qui ressemblent à des gendarmes, là?
Des punaises plus petites. Plus petites, elles sont un petit peu jaunes, mais elles sont plus petites que des gendarmes.
Mmh. Enfin, je crois que j'ai les mêmes sur mes choux, en fait.
C'est les petits cousins des gendarmes. Mmh. Ouais, alors elles font vraiment des ravages. J'ai pas encore vraiment la solution, là, mais c'était pas une réussite. Voilà, sinon, quelques pâtissons qui attendent de rentrer tranquillement. Et puis, les panais qui restent en terre, voilà, pour l'instant. Ils ne sont pas assez gros.
Bah, si on a fini avec les jardins d'ici, moi, je vous emmène à Barcelone avec la chronique des jardins et des hommes, comment les jardins cultivent les hommes. Donc, on avait parlé la dernière fois, ça fait longtemps maintenant... Mais on avait parlé de l'association Culture Robinson qui fait du travail de rue et du jardinage communautaire en banlieue parisienne. C'est aussi avec cette association, en lien avec cette association, que se font les ateliers de rue en ce moment à Cocose, tous les samedis à Cocose à partir de 14h30, où y a aussi un peu de jardinage là, dans les bacs qu'il y a autour des immeubles. Voilà, d'ailleurs il y a pas mal de plantes qui commencent à se mettre en place là-bas, donc c'est toujours ouvert si vous voulez aller passer aux ateliers de rue de Cocose, amener des plantes et les mettre dans les bacs là-bas, c'est possible. Mais voilà, donc là je voulais vous parler de cet été, au fin août. Donc on est parti avec un groupe d'adolescents qui fréquentent l'association depuis quelques années, cette association. Avec ce groupe on est parti à Barcelone. Une semaine, voilà, donc c'était un peu leurs vacances et on en a profité pour aller voir des jardins communautaires à Barcelone. Donc on en a vu trois. On a vu l'Hort del Chino. Alors Chino, ça écrit X-I-N-O pour ceux qui ont envie d'aller voir sur internet. Hort, c'est jardin, mais en catalan, du coup, c'est pas du question. Ce jardin qu'on a vu, l'Hort del Chino, celui-là, il est donc c'est en plein centre de Barcelone, dans un quartier populaire. Il y a un terrain vague qui était encombré de déchets. Les habitants ont nettoyé le terrain de ces déchets et ont commencé à le cultiver. Là, c'est un petit terrain vague coincé entre les maisons. Et où nous on a vu pas mal de gens se rassembler et puis jardiner ensemble. Il y a plein de graphes sur tous les murs, magnifiques. Et voilà, et puis là, des enfants qui jouent, etc. Un truc assez convivial, quoi. Voilà, donc là on a été donner un coup de main pour arroser en particulier parce qu'ils n'ont pas d'eau dans le jardin, donc ils vont chercher l'eau à la fontaine, de la place, du quartier. Et ils amènent ça dans des caddies, des gros bidons dans des caddies qu'ils transportent jusqu'au jardin après pour arroser.
Ils sont courageux.
Ouais.
Est-ce que ça crée du coup de la rencontre ça, ouais.
Du coup, forcément, ils passent pas inaperçus avec leur caddie rempli d'eau. Et donc, ça amène des gens qui les voient et qui viennent participer, donner un coup de main, tout ça. Bah, donc ça, c'était le premier jardin. C'est sur un c'est un terrain, il n'y a aucune autorisation, donc on peut dire que c'est du squat. Hein. Ça fait 3 ans, mais ils n'ont aucune nouvelle du propriétaire, donc pour l'instant, pas de problème. Donc ça, c'était le premier jardin qu'on a été voir avec ce groupe d'ados. On a été voir un deuxième jardin qui s'appelle l'Or del Forat. Forat, F-O-R-A-T. Et celui-là, c'est un peu différent. C'est pas un squat, c'est une parcelle qui a été cédée par la mairie. Donc là, c'est toujours au centre de Barcelone, dans un autre quartier, assez populaire lui aussi. Et où il y a une grande place en fait, où tout le monde est dehors. Ça joue au foot, à la pétanque ou aux cartes ou je sais pas quoi, ça discute, etc. Et sur cette grande place où tout le monde se rencontrait, hein, ça vit beaucoup dehors dans la rue à Barcelone. Et la mairie voulait faire un parking. Donc il y a une grosse mobilisation des habitants. Ils ont fait des bacs à plantation un peu partout. Voilà, ils sont mobilisés, etc. Organisés pour pas que ça devienne un parking. Donc finalement, la mairie a été obligée de céder. Et voilà, elle s'est retirée en jouant les grands seigneurs et en laissant une parcelle en disant voilà, là vous pouvez jardiner. Et faire un jardin. Donc il y a cette parcelle là qui est aussi en jardinage communautaire où il y a pas mal de plantes aromatiques et médicinales en particulier. Et voilà, donc les gens passent. Il n'y a pas forcément là, nous quand on est passé, il y avait pas beaucoup de gens qui jardinaient, mais les gens passent, sont à côté, viennent, discutent. Pareil, donc on est là en train de jardiner et puis les gens sont en train de discuter avec vous par-dessus la barrière. Donc une très bonne ambiance aussi. Et il y avait un petit ils avaient une petite technique aussi, ils faisaient des jardins verticaux, enfin ils avaient testé ça en fait. Donc c'est-à-dire ils prennent des palettes donc qu'ils mettent à la verticale, ils mettent de la toile de jute à l'intérieur par exemple pour remplir la palette de terre, et dans la toile de jute ils vont percer des trous pour mettre des plantes. Voilà, donc ça fait un mur végétal après où les plantes poussent, mais du coup sur une surface verticale. Donc si on accroche ça à des clôtures, des choses comme ça peut permettre de végétaliser assez facilement un espace vertical. Ouais. Voilà, ça peut être intéressant comme technique à essayer.
Ah oui, j'avais vu ça pour des fraisiers notamment, mais c'est vrai qu'on peut faire ça pour... C'est plus décoratif ou là il y a un peu de légumes là ?
Non, là c'était décoratif.
D'accord. Ouais, ouais.
C'était décoratif et je pense que c'est pas mal, ouais, ou des capucines, mais des courges peut-être. Bon, ça demande pas mal de terre, mais le côté dégoulinant, enfin, quoi, ouais, que ça peut avoir, grimpant, ouais. ça peut être joli aussi. Ouais. Donc voilà, ça c'est donc les deux premiers jardins qu'on a été. Et le troisième, le plus important, c'est Can Masdéu. Alors j'en ai parlé. On a parlé de tous ces jardins-là il y a jeudi dernier à l'émission Feu de tout bois, qui passe tous les jeudis en direct à 19h30, voilà, que vous pouvez écouter sur Erdiwa. C'est une émission qui est très chouette aussi. Et donc on a parlé de ces jardins et aussi donc de ce Can Masdéu. Can Masdéu, c'est un squat là qui est très reconnu sur Barcelone, mais aussi dans un peu partout en fait en Europe. Il devient vraiment connu parce que là ça devient historique maintenant, puisque ça fait depuis décembre 2001 qu'il est occupé. Donc ça, c'est en périphérie de Barcelone, vraiment juste à la sortie de Barcelone. C'est sur une colline un peu en hauteur au-dessus de Barcelone où un grand bâtiment donc qui a été squatté en décembre 2001 et avec des jardins autour. Donc qui ont été mis en culture assez rapidement. Donc pour l'histoire en fait, comme en Espagne le squat c'est considéré comme de l'usurpation et donc comme un crime en fait, donc passible de procès au pénal. Mmh. Donc il y a eu assez rapidement un procès qui a eu lieu, une procédure qui a été mise en cours, et avant que l'aboutissement de cette procédure, il y a eu une intervention de la police pour les déloger. Et là, ils sont donc tous les occupants de Can Masdéu se sont installés dans une sorte de dispositif aérien qu'ils ont bricolé, donc avec des cordages, des échasses, des nacelles, je ne sais pas exactement. L'idée, c'était de se mettre en hauteur de façon à ce que la police puisse pas les déloger, ou alors pas sans les blesser gravement, quoi. Donc, euh, Donc ça fait que ça a beaucoup difficulté le travail de la police, d'autant que ils sont dans un proche d'un quartier qui a l'habitude de des mouvements sociaux, de l'autogestion et donc aussi de la lutte. Et donc ça a été très difficile pour la police. Donc pendant 3 jours, en fait, ils sont restés en hauteur, accrochés sur leur dispositif, sans boire ni manger, du coup. Donc au bout de 3 jours, ça a commencé à devenir vraiment inquiétant pour leur santé. Et du coup, la police a dû se retirer. Donc ce qui a permis de reporter leur expulsion à la date du procès, qui a lui été reporté par la suite, et finalement quand il a abouti, ça a abouti que des années après, puisqu'ils se sont installés en 2001 et le procès il a abouti en 2006. Et du coup là, ils étaient tellement bien implantés sur le quartier, mais aussi ils avaient aussi un tel réseau dans tout Barcelone et aux alentours dans la Catalogne, qu'ils ont préféré pas appliquer la sentence et les laisser tranquilles, quoi. Donc là, ils sont une trentaine de permanents squatteurs à habiter dans le lieu, en fait, avec leur famille, etc. Donc il y a les potagers. Les potagers, ils servent à nourrir d'un côté le squat, mais il y a des gens du quartier aussi qui viennent cultiver pour eux. Et donc là, il y a 80 personnes à peu près qui cultivent les jardins. Donc tout ça de manière communautaire. Voilà, donc et puis donc sur ce même lieu, ils organisent très régulièrement des ateliers de permaculture, mais aussi autour de plein de choses, d'ateliers pour l'autonomie ou pour le mouvement social ou des choses comme ça. Voilà, donc ça en fait un lieu assez reconnu et puis effectivement assez accueillant. Et voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit, hein. Donc Can Masdeu, ça s'écrit Can, C-A-N, plus loin Masdeu, M-A-S-D-E-U. Donc pareil, ils ont un site internet, vous pouvez aller voir, canmasdeu.net. Voilà.
Donc ça, c'est des jardins en Espagne, hein. Pas les châteaux en Espagne.
Ouais, faut des châteaux, ouais.
Et toi, comment t'en as entendu parler, Robin, alors de ces lieux en particulier?
Alors moi, j'avais vu Can Masdeu dans un documentaire sur plusieurs lieux alternatifs en Europe. Donc ça, je connaissais déjà depuis un moment. Et du coup, en regardant sur leur site, bah, y a des liens vers d'autres jardins urbains, dont les deux autres qu'on a été voir, l'Hort del Chino et l'Hort del Forat. Voilà. Et donc comme c'est des expériences assez en lien avec l'expérience de l'association Culture Robinson en banlieue parisienne, bah, c'était intéressant de faire cet échange du coup avec ce groupe d'ados qui sont venus participer aux travaux dans ces jardins. Et du coup, là, le dimanche 30 septembre, donc on fait un petit repas en banlieue parisienne avec les ados pour présenter leur voyage et l'expérience des autres jardins qu'ils ont pu voir à Barcelone auprès des autres membres de l'association, des habitants du quartier, etc. Voilà.
Super, bah merci.
Que de beaux voyages. Une belle rencontre.
Ouais.
Voilà, la 5e édition de Pêle-mêle Bêche se clôture. Donc, vous pourrez nous écouter donc le premier dimanche de chaque mois sur RDIWA, donc dans votre petit poste de radio, et sinon nous retrouver sur le site d'RDIWA dans la rubrique émission
thématique,
donc Pêle-mêle Bêche. Vous pourrez aussi télécharger les anciennes émissions, les quatre autres émissions, et nous vous invitons aussi à participer à cette rencontre autour des jardins avec nous, si vous avez des choses à nous raconter sur vos jardins, sur vos expériences, sur des choses que vous avez rencontrées, vécues autour des plantes, de la botanique, de la terre, des vers de terre. Voilà, vous êtes les bienvenus. Donc notre contact est où vous appelez RDIWA ou vous le trouvez sur notre page Pêle-mêle Bêche. Donc à une prochaine, donc la prochaine émission sera diffusée le 3 décembre, le 2 décembre, me dit Gabriel avec ses deux petits doigts. Donc pour de nouvelles aventures dans les jardins. À bientôt.
À bientôt.
Salut, salut.
Pêle-mêle Bêche, c'était l'émission des jardins.